France Culture.
Le journal est signé Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Le choix cornélien de Volodymyr Zelensky, sommé par Donald Trump de signer le plan de paix américain, un plan dévoilé hier dans la presse américaine et qui ressemble à une capitulation pour l'Ukraine. Les Européens pris de court se réunissent en urgence, tandis qu'en Ukraine, les 28 points de ce plan suscitent une vive hostilité. Y aura-t-il un accord à Belém, au Brésil ? Rien n'est moins sûr, tant les blocages persistent sur la sortie des énergies fossiles. L'Union européenne envisage ce soir la perspective d'une COP30 sans accord. Des blocages qui persistent aussi à l'Assemblée sur le projet de loi de finances et des députés qui devraient rejeter la partie recette du texte ce soir. On se penchera sur la parité imposée aux prochaines élections municipales et qui vire au casse-tête pour les maires. Et puis quand la condition des femmes figure en haut de l'affiche, de nombreuses pièces féministes sont programmées dans les théâtres cet automne. Et nous verrons que ce n'est pas vraiment une nouveauté, c'est le dossier de ce journal. C'est un plan concocté depuis un mois, en toute discrétion, par l'administration Trump et qui a de quoi ravir le Kremlin. Pour mettre un terme à la guerre en Ukraine, les États-Unis ont proposé un plan de paix qui prévoit notamment que Kiev cède plusieurs parties de son territoire à l'envahisseur, notamment les régions de Donetsk et de Lugansk à l'est, loin donc d'une paix digne, comme le réclame Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien qui s'est entretenu par téléphone avec les dirigeants français, allemands et britanniques tenus à l'écart de ce plan. Ils entendent préserver à long terme les intérêts vitaux européens et travaillent donc à des contre-propositions. Sauf que dans le même temps, Loïc Loury, Washington accentue la pression sur le président ukrainien.
Rien d'officiel pour le moment, mais le Washington Post ce matin l'affirme, les Ukrainiens auraient jusqu'à jeudi prochain la date de Thanksgiving pour signer le plan de paix en 28 points de la Maison-Blanche. Faute d'accord, Kiev pourrait se voir privé de ce qui lui reste du soutien américain, des armes d'abord, achetées aux États-Unis par les Européens pour ensuite les livrer à l'Ukraine, et un indispensable partage d'informations militaires, ensuite fourni par le Pentagone. À Kiev, selon une source diplomatique, serait sous la pression extraordinaire de Washington, contraint d'accepter en particulier d'énormes concessions territoriales. La partie s'annonce donc serrée pour Volodymyr Zelensky, habitué aux sautes d'humeur de la Maison-Blanche et au revirement de Donald Trump et qui s'est entretenu tout à l'heure avec le vice-président J.D. Vance. La Maison-Blanche, elle l'assure, son plan est le bon pour la Russie comme pour l'Ukraine.
Loïc Loury, ce projet américain et ses 28 points donc qui prévoient aussi que l'Ukraine renonce à intégrer l'OTAN, réduise la taille de son armée, limitée à 600 000 hommes, et que la Crimée, péninsule arrachée par la Russie en 2014, soit reconnue comme un territoire russe. Alors non loin de là, à Odessa, Théo Renondron, les Ukrainiens sont plus que réticents à la signature d'un plan de paix qui ressemble à une capitulation.
Ici à Odessa, les nombreuses frappes de drones de ce matin et les coupures d'électricité de ce soir n'empêchent pas les Ukrainiens de refuser la paix facile, celle de la quasi-défaite. L'expression est celle d'Alexander, juriste.
Trump met une pression excessive sur Zelensky pour obtenir des concessions. Et ça ne doit pas compromettre la sécurité nationale. Ce plan américain peut sembler une solution rapide, mais ça pourrait créer de gros problèmes à l'Ukraine. Et pour longtemps, moi, je pense que la priorité des priorités, c'est de préserver l'Ukraine.
Entre deux générateurs électriques, Viktorivna parle carrément de trahison en cas de signature de ce plan de paix.
Signer, ce serait la pire décision. Ce serait vraiment une décision horrible. Moi, je viens de Lugansk, je suis réfugié, je n'ai plus de maison. Et j'ai vécu pendant 56 ans à Lugansk. J'ai construit toute ma vie là-bas. Et nous abandonnerions nos territoires ? Non, on ne signera pas. C'est injuste, je ne suis pas d'accord.
De toute manière, la plupart des Ukrainiens rencontrés ici pense que la Russie ne respectera pas très longtemps un accord de paix.
Théo Renaudon, correspondant de France Culture en Ukraine. Et on revient sur ce plan de paix proposé par les États-Unis dans notre journal de 19h. Elles ont disparu, les énergies fossiles, du projet de texte en négociation à la COP30, mis sur la table par la présidence brésilienne. Or, une trentaine de pays, dont l'Allemagne, la Colombie ou encore la France, menacent de bloquer ce texte, regrettant qu'il ne mentionne pas de feuille de route pour sortir des énergies fossiles. Une omission incompréhensible. À l'heure de l'urgence climatique, s'insurge la ministre française de la transition écologique, Monique Barbu. La France qui accuse la Russie, l'Inde et l'Arabie Saoudite de blocage. Bonsoir Véronique Roberotte.
Bonsoir.
Alors le président de la COP, André Correa do Lago, est mis sous pression ce soir à quelques heures de la fin de cette COP. Il a reçu les chefs des délégations.
Oui, en tout cas, le Brésil voulait une COP de la vérité. Elle n'est pas facile à entendre depuis que la présidence brésilienne a mis en tout début de matinée un nouveau projet de texte sur la table en omettant un mot que beaucoup ici attendaient pour espérer sauver l'accord de Paris. Le texte ne contient pas le mot fossile et encore moins la création d'une feuille de route pour évoquer concrètement cette sortie des énergies fossiles, feuille réclamée par au moins 80 pays. Mais feuille, vous l'avez dit, rejetée eh bien par l'Inde, hein, l'Arabie Saoudite et la Russie, notamment, ce ne sont pas des petits pays. Alors lors d'une séance plénière, le président de la COP, l'air sombre, a exhorté les négociateurs à coopérer. Nos détracteurs seront absolument ravis de voir qu'on n'arrive pas à nous mettre d'accord, a dit en substance le président de la COP30, André Correa do Lago. Qui veut croire, malgré tout, que ces moments de crispation font partie de la chorégraphie des COP? On l'écoute.
C'est un moment difficile parce que c'est le moment où personne n'est heureux. Mais justement, il faut trouver cet équilibre qui permet que tout le monde reconnaisse que même s'ils ne sont pas particulièrement heureux, ils savent qu'on est en train de faire ce qu'il faut faire pour que l'accord de Paris soit chaque fois plus fort.
Voilà, et le projet de texte a aussi été rejeté par toutes les ONG sans exception.
Si bien que certains évoquent même l'absence d'un accord à Belém, Véronique.
Absolument. Au moment où l'on se parle, le spectre du no deal plane sur la COP. L'Union européenne évoque ouvertement la perspective d'une COP sans accord pour l'Europe, la France. Donc aussi, le projet de texte de la présidence brésilienne n'est pas assez ambitieux sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, inacceptable en l'état. C'est un casus belli. Pas d'accord à Belém, bien ce serait un échec terrible pour le Brésil. Et cette première conférence climatique en Amazonie, on a vraiment du mal à l'imaginer.
Véronique Rebérotte en direct de Belém au Brésil avec Olivier Branger au moyen technique. Des blocages qui persistent donc à la COP et une COP boudée par les États-Unis, signe du décalage entre les enjeux climatiques et les ambitions du président américain. Ainsi, l'administration de Donald Trump a présenté hier un vaste plan de forage de pétrole et de gaz sur des millions de kilomètres carrés dans les eaux côtières américaines, visant à renforcer donc l'industrie offshore, mais en augmentant massivement l'extraction d'énergie fossile. Peu de chances qu'il soit adopté, le projet de budget à l'Assemblée. Alors que les députés continuent d'examiner sa partie recette, ils ont théoriquement jusqu'à dimanche soir pour se prononcer sur l'intégralité du texte. Or, les parlementaires de la Chambre basse vont probablement rejeter cette nuit sa partie recette. Adrien Toffolet, tous semblent pour une fois d'accord pour rejeter cette première partie.
Une unanimité inédite dans les couloirs de l'Assemblée. Une copie ratée, dénaturée par le RN et LFI, pestait tout à l'heure un député Horizon. Un texte qui n'a ni queue ni tête, renchérit la députée Modem de la Nièvre, Perrine Goulet, avec tout de même des débats sur le fond particulièrement intéressants, dit-elle, avec même des amendements qui ont été des avancées. Tout un travail qui serait perdu si le texte est rejeté, regrette-t-elle.
Si on rejette en bloc ce budget, eh bien ça veut dire que les sénateurs repartent de la copie du gouvernement et donc tous les amendements et tout le travail qu'on a fait ne seraient pas pris en compte. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de savoir comment se projeter pour la suite.
Alors au Modem, une dernière réunion de groupe doit avoir lieu ce soir afin de décider d'une position définitive, voter pour afin que le Sénat ne reparte pas de zéro, mais plus probablement s'abstenir ou voter contre. Côté Renaissance et Horizon également, entre abstention et contre, les positions définitives des groupes seront décidées ce soir. Seuls les groupes de gauche ainsi que le Rassemblement National ont déjà acté qu'ils voteront contre. Autrement dit, le rejet du texte ne fait plus débat. Dans les couloirs de l'Assemblée, à 7h, on s'amuse plutôt à se demander si l'histoire va s'écrire ce soir. Si pour la première fois, aucune voix ne se prononcera en faveur d'un projet de loi de finances, vous ne trouverez personne qui acceptera de voter pour, tellement ce texte est monstrueux, moque un ancien ministre macroniste. Sauf peut-être un député qui se sera trompé de bouton en votant et deux autres qui fonceront ensuite vers les caméras des journalistes pour une minute de célébrité.
Adrien Toffolet, à l'Assemblée nationale, où les femmes représentent 36% des députés. Or, elles ne sont que 23% parmi les conseillers municipaux des communes de moins de 1000 habitants. C'est le résultat d'une étude du réseau élu local, LUUES, publiée ce matin à l'occasion des Journées nationales des femmes élues. Il va donc falloir redresser la barre, puisqu'à partir des prochaines municipales en mars prochain, toutes les listes candidates devront être paritaires pour pouvoir être validées. Une loi promulguée en mai dernier impose en effet cette règle à toutes les communes. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir.
Jusqu'ici, celles de moins de 1000 habitants étaient exemptées.
Oui, 77% d'entre elles vont donc devoir se mettre à la page. Elles n'auront désormais plus le choix, explique Julia Mouzon, la présidente du réseau élu local.
Quand vous êtes tête de liste, vous voulez vous présenter à une élection, vous devez aller déposer votre liste en préfecture pour qu'elle puisse être enregistrée. Et au moment de ce dépôt de liste, la liste n'est pas acceptée si elle n'est pas paritaire. Donc en fait, ce n'est pas une incitation, c'est une obligation.
Une mesure compliquée à introduire en si peu de temps s'inquiètent certains élus déjà confrontés à une crise des vocations. Cela va en effet leur demander plus d'efforts, reconnaît Julia Mouzan.
Il y a effectivement un petit travail à mener de conviction, d'aller expliquer aussi ce que c'est que le mandat local.
Mais au rythme actuel et sans cette impulsion, il aurait fallu plus de 20 ans pour atteindre la parité dans les petites communes. Constat dressé par l'Assemblée nationale au moment de l'adoption de cette nouvelle loi en mai dernier. Celle-ci va donc permettre une vraie révolution, salue Véronique Genel, coprésidente de l'association, elle aussi engagée pour la parité.
Pour une femme, un mandat électoral, c'est un enrichissement personnel. Ce qui fait que ça donne une valorisation de leur action et ça peut encourager à des fonctions de tête de liste, mais aussi de maire, de vice-présidente dans les intercos, d'adjointe. Et tout ça, ça fait que justement, la vie de la cité, elle s'en trouve enrichie.
Ce qu'il faut viser désormais, ajoute-t-elle, c'est la parité à tous les échelons de l'exécutif local. Les postes décisionnels restent pour l'heure largement occupés par des hommes. Seulement 20% des maires en France sont des femmes.
Jeanne Serrin, la plateforme X d'Elon Musk, de nouveau dans le viseur de la justice. Après la publication créée par son intelligence artificielle, Grok, niant la finalité criminelle des chambres à gaz. La Ligue des droits de l'homme et SOS Racisme Touche pas à mon pote ont déposé une plainte commune pour contestation de crimes contre l'humanité contre la plateforme américaine. Une plainte vise à poser la question de la responsabilité d'Elon Musk, le propriétaire de l'entreprise. Le parquet de Paris s'est lui aussi saisi cette semaine de ses propos négationnistes, Anne Fauquemberg, pour les verser à une procédure déjà ouverte contre la société américaine.
Cette enquête a été ouverte en juillet dernier par la section J3 du parquet de Paris en charge de la lutte contre la cybercriminalité. Elle fait suite à plusieurs signalements, dont celui du député Éric Botorel, qui s'était inquiété des conséquences des changements d'algorithme de X depuis son rachat par le milliardaire américain Elon Musk.
Ingérence, amplification de contenu qui était plutôt favorable à l'extrême droite, défaut de modération, puisque c'est un peu la doctrine en fait en matière de régulation au niveau européen, c'est demander aux plateformes de modérer les contenus illicites. Et on s'apercevait qu'on avait de moins en moins de résultats en matière de modération après signalement. Donc voilà, c'est la base du courrier que j'ai envoyé effectivement en février de cette année.
Éric Botorel apportera des preuves numériques lorsqu'il sera entendu par les cyber-enquêteurs de la gendarmerie début décembre. L'enquête ouverte visait initialement des infractions d'altération du fonctionnement d'un système informatique et d'extraction frauduleuse de données, le tout en bande organisée. Pour la LDH et SOS Racisme qui viennent donc d'ajouter cette plainte pour contestation de crimes contre l'humanité, il sera important d'identifier les personnes physiques à l'origine de l'alimentation en données de l'intelligence artificielle Grok. Evelyne Cyr-Marin est vice-présidente de la LDH.
La négation de crimes contre l'humanité, la peine encourue, c'est 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Je pense que ça serait symbolique au moins qu'il y ait une audience. Après, cette plateforme, évidemment, n'est pas une plateforme française. On ne sait pas du tout comment ça pourrait être appliqué, comment la décision, si c'est une décision de condamnation, pourrait être appliquée.
Au-delà de la justice, le gouvernement a également saisi l'ARCOM, le gendarme des médias, au titre des manquements manifestes de X au règlement européen sur les services numériques. L'ARCOM qui a le pouvoir d'émettre des sanctions pécuniaires.
Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, lance un plan d'expérimentation zéro portable en prison, doté de 30 millions d'euros pour rendre 6 établissements pénitentiaires complètement étanches aux mobiles. Une mesure censée lutter contre le narcotrafic et empêcher les chefs de réseau de commander des assassinats depuis leur cellule, explique le garde des Sceaux. Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessassi, petit frère d'Amine Kessassi, militant écologiste et anti-drogue. Une marche blanche doit d'ailleurs se tenir demain à Marseille. Une marche en présence d'une cinquantaine de personnalités politiques de tous bords. D'autres rassemblements contre le narcotrafic sont également prévus à Paris, Bagneux ou encore Clermont-Ferrand. 3 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en moins de 24 heures. Hier, à Sedan, à Sierre d'Abzac, en Gironde, ou encore à Besançon. Ou hier matin, une femme de 32 ans a été abattue par son ex devant son immeuble alors qu'elle se rendait à son travail. La victime avait déjà déposé plainte en février dernier contre le suspect déjà condamné pour harcèlement moral contre une ancienne compagne. En France, chaque jour, plus de 3 femmes sont victimes de féminicide ou de tentatives de féminicide conjugal. Un chiffre en hausse sur 1 an d'après les dernières données de la mission interministérielle pour la protection des femmes publié hier. Des violences contre les femmes contre lesquelles il faut donc continuer de lutter. Et c'est le but de la journée internationale mardi prochain et dès demain lors de manifestations à l'appel du collectif Nous Toutes. Des violences masculines, ancestrales, dans une société que le patriarcat a rendue malade et dont s'emparent de nombreuses metteuses en scène. Ces derniers mois, les pièces évoquant la condition des femmes, leurs droits, leurs représentations se multiplient. Et c'est loin d'être un effet de mode, car cela fait bien longtemps que les femmes s'expriment sur les planches, mais elles ont souvent été invisibilisées, oubliées, voire effacées des mémoires. Bonsoir Fiona Mogadam.
Bonsoir.
C'est l'objet de votre dossier du journal de 18h ce soir.
Olympe de Gouges proposait déjà en 1790 une pièce de théâtre où elle demandait l'instauration du divorce intitulée « La nécessité du divorce ». Car à l'époque déjà, les autrices utilisaient le théâtre comme moyen d'expression. Aurore Evin, autrice, metteuse en scène et chercheuse.
On voit bien que le théâtre a été l'occasion pour les femmes, surtout quand elles n'avaient pas l'accès à l'espace public, d'avoir une parole publique. Et elles s'en sont effectivement emparées, et notamment pour retravailler la question de l'égalité, des rapports femmes-hommes, la question du consentement.
Mais comme bien souvent dans l'histoire, ces femmes autrices ont simplement été effacées.
On a complètement gommé la filiation, en fait, que l'on retrouve entre les différentes générations d'autrices de théâtre. Dans les années 70, on avait aussi ces questions-là, sur la question de l'avortement, sur la question d'autonomie, de l'émancipation, etc. Il y a quand même quelque chose qui est vraiment se retravaille à chaque fois. Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le théâtre public peut-être ouvre davantage ses portes à ce théâtre féministe, même si Catherine Bernard pose la question de la gouvernance par une femme en 1690 à la Comédie française avec sa tragédie La Haudémie.
Au théâtre Gérard Philippe, Centre dramatique national de Saint-Denis, Julie Deliquet, la directrice, a été la première femme nommée à ce poste il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle programme 80% de femmes. À son arrivée, elle ne s'est pas posé la question de programmer des sujets, mais plutôt de mettre en place la parité.
Parce que pour moi, il y a une urgence à rattraper les inégalités du passé. J'ai rencontré des artistes, hommes et femmes, et les projets des femmes m'ont plu. Ce n'a pas été un choix de genre, ça a été un choix d'art. Et qui fait qu'en fait, j'ai surtout travaillé sur la question plus invisible des égalités d'accès aux moyens de production et l'accès aussi aux jauges, c'est-à-dire que les femmes sont étaient systématiquement mises dans des petites salles. Je n'ai jamais attendu, en tout cas, des femmes metteuses en scène qu'elles portent un sujet plutôt qu'un autre et les assigner à qu'est-ce que, si vous avez des espaces, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça?
Finalement, comme le théâtre est le reflet de notre société, il est assez évident que ces thématiques féministes se retrouvent sur scène. Amandine Mercier est maîtresse de conférences en art de la scène et du spectacle vivant à l'Université d'Artois dans les Hauts-de-France.
Ces artistes, non exclusivement des femmes d'ailleurs, elle s'empare de la question du féminisme à la fois comme thème, comme sujet, motif, esthétique, courant de pensée et d'action pour nous rappeler en fait combien la chose est politique au sens étymologique du terme et donc se doit de rassembler les citoyens, les citoyennes autour de la cité. On va retrouver des dynamiques quand même qui sont similaires ou des points de convergence dans la manière dont le féminisme est porté au plateau et qui semble se dessiner aujourd'hui.
Avec pour Amandine Mercier des œuvres qui questionnent toujours le monde, la culture, la société, la place que nous choisissons d'y occuper, l'action ou l'inaction face à ces injustices et inégalités.
Fiona Mogadam pour ce dossier à réécouter sur notre site franceculture.fr. Le chanteur et parolier Jean-Guy Donny est décédé aujourd'hui à l'âge de 74 ans des suites d'une maladie fulgurante, annonce son entourage. Il avait fait ses premiers pas dans la chanson dans les années 70 avant de se tourner vers le théâtre où il laissa libre cours à son exubérance et à sa provocation.
Moi, je marche dans les villes, les banlieues, les bidonvilles, sur le pavé des ports et sur l'asphalte vide.
Extrait ici de Je marche dans les villes, chanson de l'album du même nom, paru en 1980 et qui avait obtenu le prix de l'Académie Charles Cros. Vous retrouvez en une de notre site France Culture une série d'entretiens à voix nue avec Jean-Guy Donny. Le froid persiste demain avec des gelées généralisées au réveil. Il fera entre moins 5 et 0 degrés en général et jusqu'à moins 8 dans le nord-est du pays sous un ciel couvert au lever du jour et pluvieux sur la Bretagne. De la pluie précédée de neige qui est attendue au fil de la matinée sur la Normandie. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck.